Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, tant de l'auditoire visible qu'invisible, et quand je parle d'auditoire invisible, je parle de celui que, dans la foi pure, l'on demande à notre bon Père du ciel de constituer lui-même, par son agir en réponse à notre désir, afin que beaucoup d'autres de nos frères et sœurs dans le monde, par un miracle de sa grâce, puissent eux et elles aussi bénéficier dès aujourd'hui d'un tel enseignement livré au fond de leur cœur. Mes frères et sœurs, que l'amour, la joie et la paix du cœur du Père, en le Fils et en les feux de l'Esprit Saint, feu d'amour, feu et de gloire, vous envahissent et vous comble dès maintenant et pour toujours. Bienvenue à cette séance d'enregistrement d'une cassette intitulée « Un paragrâce, c'est quoi ou c'est qui au juste ?» Cassette numéro 98-99-07. 98-99-07. Avant de prendre connaissance du plan de cet enseignement, recueillons-nous un moment pour écouter un conseil de Saint Paul tiré de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18, où Saint Paul nous invite à faire un choix parmi ceux et celles que l'on fréquente. Et je cite, « Ne formez pas d'attelage disparate avec les incrédules. Quelle association peut-il y avoir entre la justice et l'impiété? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Béliar? » Béliar, c'est un euphémisme pour idole ou Satan. Quelle relation entre le croyant et l'incrédule? Qu'y a-t-il de commun entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit. Au milieu d'eux, j'habiterai et je marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sortez donc d'entre ces gens-là et mettez-vous à l'écart, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et si vous me permettez une courte parenthèse, avant de présenter le plan de cet enseignement, j'aimerais répondre à un commentaire qu'on entend assez souvent venant de la part de gens du style 1 par rapport au développement du style 2. Je voudrais préciser ceci que pour une Église davantage entre les mains du Seigneur, et c'est ce que veut le style 2, ce n'est pas tendre vers la droite par rapport à une autre tendance vers la gauche. Ce n'est pas du tout une question de latitude différente. C'est une question d'altitude différente. Se rapprocher du Seigneur ou inviter l'Église à s'en rapprocher, comme le veut le style 2, c'est nous inviter à voir et à discerner les choses de plus haut. Pas de notre haut savoir à nous, mais du savoir d'en haut à lui. L'altitude nous rapproche des réalités d'en haut, lesquelles nous permettent de jeter un meilleur regard sur les réalités d'en bas. Permet donc d'avoir toujours une vue d'ensemble beaucoup plus étendue, incluant le passé et l'avenir. Pensons seulement au regard des astronautes du haut de leur navette spatiale. Cela nous permet donc d'avoir une meilleure vue également en profondeur et en hauteur, donc de mieux voir, pour reprendre l'expression de saint Paul aux Éphésiens 3, 18, et je cite, « Vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et dans le texte, il y a un point de suspension, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. » Fin de la citation de saint Paul. Alors, c'est très important. Le style de nouveau ne représente pas une tendance vers la gauche ou vers la droite, ou vers le centre gauche ou droit, mais représente par rapport au style 1 actuel un appel, une requête pour une altitude nettement supérieure, une Église qui, en sa réalité concrète quotidienne, part de et retourne à du beaucoup plus haut. Pour nous, le style 1 actuel vole à trop basse altitude, en rase motte, d'où ses attitudes spirituelles trop terre à terre. Malgré les bonnes intentions, elle reste trop enlisée dans les marécages et la jungle d'ici-bas. Il est important de bien noter cette distinction entre les deux styles pour ne pas se laisser entraîner dans de futiles et douloureuses discussions avec les tenants du style 1 actuel. Nous ne mettons jamais de l'avant des procédés, des structures, des méthodes ou des techniques, mais uniquement, inlassablement, une conviction, toujours la même, à savoir qu'il faut partir de lui correctement, concrètement, régulièrement, donc que ce soit toujours une œuvre à 100% du Seigneur, si on veut en fin de compte aller et retourner à lui pour vrai et pour de bon. Et je ferme cette parenthèse et nous passons immédiatement au plan de cet exposé qui comprend, comme vous pouvez le constater, 5 chapitres, et nous passons immédiatement au chapitre 1, origine et sens du mot paragrâce. Mes chers amis, ne cherchez pas ce mot au dictionnaire ou dans vos ouvrages de théologie. C'est un mot image que j'invente de toutes pièces pour les fins de cet exposé. Quand je vous en aurai décrit le sens et la portée, je suis prêt à parier que vous ne l'oublierez jamais et qu'il vous servira souvent à faire le point tout au long de votre chemin de croissance spirituelle. Nous connaissons tous le rôle de ce que nous appelons des paratonnerres, c'est-à-dire des appareils destinés à préserver les bâtiments des effets de la foudre, des tiges ou des fils pour envoyer la décharge dans le sol au besoin. Le rôle des parapluies, des parasols, qui nous servent d'abri contre la pluie ou le soleil. Para dégage donc cette idée de protection contre, d'où le verbe parer, se parer, c'est-à-dire se protéger, se défendre. Parer un coup, ça veut dire l'éviter. On connaît aussi le mot parachute. Ceci dit, je crois pouvoir affirmer, à l'écoute des âmes et à l'observation de ce qui se passe, qu'on a bel et bien en Église des attitudes et des personnes para-grâce, si je peux inventer le mot. Donc, des attitudes et des personnes qui, sans souvent s'en rendre compte, détournent la venue de la grâce de certains milieux ou situations. En effet, il suffit parfois de la présence d'une seule personne dans une rencontre, même de prière, pour bloquer le circuit et le torrent de grâce. Et ce n'est pas parce qu'on se donne de bons motifs pour accueillir cette personne ou l'endurer, la tolérer, que tout l'effet de ce paragrâce ne joue plus. Alors, en résumé, disons donc qu'un paragrâce, c'est une chose, c'est un écran. Et si c'est une personne qui fait écran, cette personne devient elle-même paragrâce. Donc, elle bloque la circulation, la venue ou la réponse à la grâce. Passons au chapitre 2. Une question pertinente et courante. Comment se fait-il que l'Église d'aujourd'hui ne semble pas avoir les grâces suffisantes de force et de lumière pour retransmettre au monde sa libération et sa guérison? C'est une question que beaucoup se posent. Le Seigneur aurait-il moins bien équipé ou servi en fait de grâce, de dons, de charisme, le 20e siècle en cours? Son déclin actuel au 20e siècle viendrait-il d'une carence, d'une insuffisance d'aide et de secours divin, d'un manque de sa part de prévision ou de provision? La réponse est évidente. Il est sûr et certain que dans son infinie bonté, Dieu a prévu d'octroyer à son Église, au fur et à mesure de tous ses besoins et défis, au cours de chaque siècle, et tous les siècles sans aucune exception, en quantité et en qualité, non seulement suffisante, mais même surabondante, absolument toutes les grâces de lumière et de force requises pour accomplir avec succès pastoral et spirituel sa mission d'Église de sanctification et de salut des âmes. On ne peut donc pas croire que certains siècles aient été volontairement oublié ou privé du nécessaire d'assistance divine. Le 20e siècle qui s'achève, avec ses énormes défis, n'a pas été sevré, lui non plus, de cette prévoyance et de ces largesses de notre Dieu trois fois saint. Comment expliquer alors notre décadence si grave actuelle sur tous les plans de la vie, non seulement du monde, mais également de notre chère Église? D'une part, on a l'assurance que les grâces divines ont bel et bien été mises à notre disposition, et d'autre part, on n'a pas ou très peu l'impression et l'évidence qu'elles opèrent sous nos yeux. Du moins, avec toute la force et les résultats qu'on pourrait espérer et dont on aurait le goût et le besoin d'obtenir et de constater. Mes frères et mes sœurs, il n'y a pas 36 explications possibles pour une telle situation. Disons d'abord que le problème ne se situe pas en aucune manière du côté de Dieu, nous venons de le dire, donc du côté du poste émetteur. Toutes les grâces requises sont disponibles pour et à l'Église et sont suffisamment fortes pour faire face victorieusement à toutes les forces adverses du 20e siècle. Mais dépêchons-nous d'ajouter des grâces disponibles et accessibles, oui, mais à trois conditions élémentaires évidentes. La première, qu'on les désire et les demande, ces grâces, qu'on les accueille vraiment, et surtout, qu'on les laisse agir, nous inspirer, nous orienter, nous faire bien discerner. Or, c'est ici, au niveau des postes récepteurs que nous sommes, qu'en Église, nous faisons hélas si souvent sourde oreille et faux bon. Nous devenons paragrâce. Un paragrâce, c'est donc un écran qui est mis, consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, soit au désir ou à la demande d'une grâce offerte, soit à l'accueil, soit à l'opération d'une grâce offerte et rendue disponible et accessible pour nous par Dieu. Et on peut établir un ou des paragraphes, c'est-à-dire un ou des écrans, soit en pensée, en parole, en acte ou par omission, bien intentionné ou mal intentionné, en croyant bien faire ou bien dire. Je prête à ceux qui ont lancé cette mer debout contre nous l'intention de bonnes intentions, mais évidemment, par la mer debout, ils ont établi un paragrâce très grave pour eux-mêmes et pour nous-mêmes. On le sait, la grâce ou les grâces reçues n'opèrent pas malgré nous, sauf dans les cas des grâces sacramentelles qui opèrent ipso facto. L'accueil et la réponse des mêmes grâces produisent des effets et des bienfaits qui varient selon les dispositions de leurs bénéficiaires. Nous pouvons affirmer que Dieu a toujours pourvu son Église au fur et à mesure des lumières et des forces dont elle avait besoin pour traverser chaque siècle et ses défis particuliers, mais notre attitude lui a compté pour beaucoup, notre attitude à les demander, les désirer, les accueillir et les laisser agir. Passons immédiatement au chapitre 3, le plus important, où on regroupe l'essentiel de tout cet enseignement de ce vin et champagne nouveau du Seigneur. Les divers types de paragrâces en Église, et nous allons diviser ce chapitre 3 en deux articles, l'article A et l'article B. Article A sur le plan institutionnel et l'article B sur le plan individuel. Voyons d'abord sur l'article A sur le plan institutionnel. Et là, ça se subdivise sur le plan des causes générales et lointaines de paragrâce. Et une deuxième section, les occasions prochaines que sont nos habitudes et nos attitudes. Voyons donc article A, le premier point, cause générale et lointaine des paragrâces. Disons d'abord que ces causes se superposent, telles des nuages qui atténue de plus en plus la vigueur du soleil. Donc, on va mentionner diverses causes et on ne veut pas prétendre qu'une seule de ces causes explique tout le phénomène des paragraphes. Parmi les causes générales et lointaines, il y a évidemment l'esprit du monde, avec ses germes et ses virus. Surtout, depuis Vatican II, avec notre souci, bien intentionné et légitime, d'être présent au monde. Isabelle Gauvin, à un moment donné, employait l'expression, disait que ce souci d'être présent au monde a créé une porte tournante entre le monde et l'Église. Et l'Église qui passe par la porte tournante pour entrer dans le monde, sans s'en rendre compte, par la même porte tournante, importe en Église l'esprit du monde. Et c'est comme ça, surtout quand on a fait l'erreur de tellement se laisser capter par le souci d'être présent au monde qu'on a diminué le temps accordé à être présent au Seigneur, au Saint-Sacrement, dans une relation de seul à seul avec le Maître de l'Église. Une deuxième cause générale et lointaine, c'est le « mangeons-nous » qui court-circuite au point de départ le commandement nouveau, qui est le signe auquel on doit être reconnu pour les disciples du Christ. Alors, je vous réfère à ces cassettes, cet album de 4 cassettes consacré à ce que j'appelle le scandale des scandales. Le « mangeons-nous les uns les autres » qui a fait des ravages et en fait continuellement depuis toujours dans l'Église parce qu'il torpille continuellement toute renaissance de la pratique et de la ferveur dans le commandement nouveau du « aimons-nous les uns les autres ». Une autre cause générale, c'est le style 1 avec son rythme accéléré. Moins de présence et d'écoute du Seigneur. La vie à la course. Il y a tellement de bien au pluriel qu'on s'est mis dans un rythme de vie qui en lui-même massacre le bien au fur et à mesure. Nous fait perdre pied, nous fait perdre de vue l'essentiel de ce que c'est qu'être instrument du Seigneur, donc apte à le laisser passer avec ses lumières et ses forces à travers nous et produire des fruits aux 4 valeurs. Une autre cause générale et lointaine, c'est l'esprit de pouvoir. Ce cher esprit de pouvoir qui, en quelque sorte, entraîne un conditionnement défavorable à l'accueil de la grâce, tant chez la personne en autorité que chez le subordonné. Car l'esprit de pouvoir entre nous en Église a non seulement été dénoncé par Jésus, mais déplace et déforme le sens et la portée de l'exercice de l'autorité tel que voulu par Dieu, et éclipse au fur et à mesure l'esprit de service au service de l'esprit. L'esprit de pouvoir entraîne les gens dans une course à la spécialisation et à la compétence, comme si cela allait, cette compétence et cette spécialisation, allait déclencher le pouvoir de l'esprit et favoriser l'esprit, et comme si l'esprit préférait passer là où il y a des diplômes et un curriculum vitae exceptionnel. L'esprit de pouvoir en a besoin, exige de continuellement se surpasser, mais le pouvoir de l'esprit, lui, cherche au contraire la petitesse d'âme, le désencombrement de l'esprit et du cœur, le RCA, récepteur cœur-amour, de préférence au RTA, au récepteur tête-analyse. L'esprit de pouvoir aussi enlève la transparence et la translucidité de la gloire de Dieu. Peu à peu, notre souci de pouvoir nous rend opaques et de moins en moins accueillants à la lumière qui vient du Seigneur. Et alors les gens ne la voient plus passer à travers nous qui exerçons l'autorité. On devient même un écran à sa ou cette lumière, non pas tant parce qu'on n'en veut pas ou qu'on la rejette, mais tout simplement parce que notre constant souci d'affirmer notre pouvoir à nous, de l'affermir, de le consolider, bloque à l'entrée et au passage sa lumière divine à lui, ses grâces et sa voix, et notre entourage est desservi, car il se retrouve à vivre non plus de ou dans sa lumière à lui le Seigneur, mais plutôt dans notre ombrage à nous. À l'une des grandes mystiques associées à la très grande mission du Père, le Père avait dit qu'en définitive, et en mots très simples, la gloire de Dieu, c'est l'ombre de mon être, a dit le Père. Je suis le seul à produire cette ombre, cette gloire. Eh bien, à partir de cette image, on peut dire que travailler pour sa gloire à lui, c'est travailler sous et dans son ombre à lui. Alors que travailler pour et avec des personnes qui recherchent leur gloire personnelle par l'esprit de pouvoir, donc leur gloriole, c'est se placer et se tenir dans leur ombrage qui bloque la gloire divine. L'esprit de pouvoir a peu remplacé également la souplesse, qui est un fruit de la liberté, par la rigidité et l'intransigeance, a peu enlevé l'intérêt et la raison d'être de notre diversité, pour remplacer celle-ci par l'uniformité qui permet de mieux contrôler. Et l'Église a peu emboîté le pas et fait perdre, même dans les domaines de la vie spirituelle, mystique, charismatique, l'intérêt et l'appréciation des innombrables diversités voulues par le Seigneur, occasion accrue de louanges, richesse inouïe pour les partages. Même les mouvements dits de renouveau, à cause de leur style 1, ont eux aussi cédé à la rigueur, à la rigidité, au rigorisme parfois. Donc, l'esprit de pouvoir est une des causes générales, fréquentes et lointaines de l'état de paragrâce. Une autre cause, c'est l'encombrement institutionnel. Toutes ces structures, tous ces cadres, tout cet embonpoint de législation, de règlement qui alourdit, pourtant sont promulgués avec les meilleures intentions, mais créent des foyers d'infection, des foyers de tension et de discussion. Une autre cause générale, c'est l'esprit d'inquisition à la moderne. Oui, l'inquisition à la moderne qui se poursuit plus que jamais en Église. J'aurais encore le goût de dire « Ohé, ohé, l'Inquisition en Église n'est pas morte, elle est plus forte que jamais. » Chose assez curieuse, elle ne vient pas surtout des traditionalistes, mais principalement d'une soi-disant élite intellectuelle qui, par surcroît, se pique d'être ouverte au pluralisme, à l'écuménisme, mais par ailleurs digère peu ou pas tout ce qui ne passe pas sous son égide dite scientifique. Bref, rejette tout ce qui jaillit spontanément dans les cœurs et les esprits, sous la mouvance de l'Esprit du Seigneur. Comme cela leur échappe, veut, veut pas, ou n'entre pas dans leur petit casier rationnel, cela devient automatiquement une langue étrangère pour eux, et très tôt, du suspect, du condamnable. L'Inquisition, à la vérité, est inséparable de l'esprit de pouvoir dont nous venons de parler, que ce soit dans le monde de la politique, des masses médias, des intellectuels ou de l'Église. Ceux qui tiennent au pouvoir sont toujours menacés ou inquiets face à tout ce qui bouge autour d'eux, innove, va son chemin, remet en cause. Et alors ces pouvoirs en place encouragent donc, plus ou moins consciemment, l'espionnage, style Gestapo parfois, allant jusqu'à encourager, sous de bons prétextes, la dénonciation, la délation ou la diffamation. Au lieu de dire la vérité en avouant que c'est ce renouveau des autres qui les met dans l'insécurité, les inquiète, par le bien des informateurs inquisiteurs, ils lancent des accusations, vagues et générales d'abord, puis malheureuses et pernicieuses, contre ceux qu'ils n'acceptent pas. Vous savez, l'esprit sectaire, c'est malheureux de le dire, est pratiquement encouragé, attisé, provoqué en Église de style 1. Par l'esprit de pouvoir régnant, c'est le divide ut impera, diviser pour mieux dominer. En principe, on s'oppose à la désunité, à la subdivision, on veut l'unité, mais en pratique, on n'est pas trop déçu, en certains milieux, de voir la division, l'éparpillement des troupes. C'est encouragé l'esprit sectaire aussi par l'Inquisition à la moderne, on vient de le dire. On étiquette facilement toute opinion qui n'est pas la sienne. Et la manière la plus courante, c'est d'y ajouter un « isme », progressisme, intégrisme, fondamentalisme, illuminisme, millénarisme, intimisme, autant de gargarismes pour conserver la même assonance, auquel recourent bien des hommes et femmes d'Église, pour tenter d'éblouir et de se donner de la voix, du tonus, du punch, alors que la majorité d'entre eux serait bien en peine ou en panne de préciser qu'est-ce qu'il veut dire au juste par ces expressions. Pour eux et pour elles, ces mots impressionnants et mystérieux font choc et font chic. Ça sème le doute, et en fait, c'est au fond ce qu'il recherche. Un évêque qui laisse entendre que je glisse dans le millénarisme en parlant du retour de Jésus, alors que le Big Bang spirituel soutient justement la thèse opposée et n'a jamais fait la moindre allusion, ni directe ni indirecte, à ce 1000 ans de l'Apocalypse. À la vérité, il n'y a qu'un seul avantage à ces pétards mouillés qui n'explosent pas, c'est de démasquer l'ignorance flagrante souvent de ceux et celles qui recourent à ces mots ronflants, grandiloquents. Et il y a aussi ces organismes créés ou patronnés parfois par les autorités elles-mêmes en Église, dans le but précis de détecter et d'étiqueter les tendances sectaires. Ces organismes, souvent laissés à eux-mêmes, et qui deviennent très tôt, de véritables braconniers et persécuteurs qui s'ignorent. Ils établissent leur propre grille d'évaluation, qui est jamais contestée, mais bien contestable, avec des méthodes souvent sorcières. Ils peuvent faire pendre n'importe qui, n'importe quand, à son insu, dans son dos et sans appel possible. Souvent, ces organismes multiplient à leur guise et impunément des anathèmes et des étiquettes. La conséquence directe de cette inquisition à la mode, à la moderne, c'est de créer en Église un climat intensifié de sectarisme. Il y a enfin, parlant de climat général, de cause générale, le climat général de violence dans lequel nous vivons. Ça aussi, ça a des répercussions pour nous rendre paragrâces ou subir les contre-coups des paragrâces des autres. Je n'ai pas besoin d'épiloguer longtemps, mais simplement de rappeler la violence dans les idées, où notre monde moderne cherche à niveler le bien et le mal, même contre nature et contre surnature. La violence dans les paroles, pensons seulement à ces spectacles mal édifiants du langage de nos élus, dans leurs discussions parlementaires ou en public, lors des campagnes électorales. Pensons à la violence dans les masses médias, ce que j'appelle le vautourisme, où les masses médias, tels des vautours, se lancent sur les citoyens et citoyennes comme des proies pour les déchiqueter. Toutes ces méthodes d'interview qui bousculent, qui persécutent la personne interviewée au nom du droit à connaître la vérité, on ne donne pas à la personne interviewée la chance de faire valoir librement et calmement et clairement et solidement son point de vue, on l'interrompt, on la charge de toutes sortes de citations préparées d'avance pour la piéger. Violence dans la publicité, toutes ces images chocs et choquantes, ces images qu'on fait défiler à toute vitesse. La violence dans la musique, à tue-tête, les sons durs qu'on nous impose. Violence dans les comportements. L'expression anglaise fait bien image, rampage, c'est-à-dire déchaînement violent. On voit ça, à l'occasion de célébrations de victoires sportives. Tout à coup, la célébration tourne en émeute. Tous ces assassins en série, dont on parle abondamment, qui deviennent ensuite les auteurs de best-sellers, les violences ethniques et toute la violence actuelle et prochaine du marché économique. Passons maintenant sur le plan institutionnel aux occasions prochaines de Paragrâce, que sont les habitudes et les attitudes erronées ou faussées, devenues hélas courantes dans certains milieux d'Église. En parlant d'habitudes ou d'attitudes, évidemment, on pense immédiatement à la peur et la méfiance, de prime abord, face à tout ce qui est nouveau et merveilleux. Ça aussi, ça crée une tendance à être paragrâce, à freiner la grâce. L'obsession qu'on a développée en face des faux prophètes, des faux mystiques, des faux docteurs, des faux pasteurs, au lieu de mettre en vedette les vrais, le vrai prophétisme, les vrais prophètes, les vrais mystiques, les vrais docteurs, on table sur la peur et on en fait une obsession des faux. L'exagération de la proportion de ce qui est faux mystique, faux prophète, faux pasteur, faux docteur, s'il y en a un 5, 10 ou 15 % peut-être, dans certains cas, ça peut varier. Mais pourquoi ne pas louer et mettre en évidence les 85 % de vrais messages du Seigneur, de vraies révélations, de véritables apparitions? Une autre habitude, ce sont les vaines discussions et réunions. Je disais souvent en boutade qu'au début de l'Église, on livrait les chrétiens aux lions. Aujourd'hui, on les livre aux réunions, où ils se font manger tout rond, où chacun s'évertue sous pression à convaincre et convertir l'autre. C'est le cirque des réunions, la réunionnite. Dans les attitudes et habitudes, on pourrait parler également des 8 syndromes courants que j'ai longuement décrits et dénoncés dans les cassettes sur le « Mangeons-nous les uns les autres ». L'esprit de domination, l'esprit de sanhédrin, d'inquisition, de sablage continu, de diffamation, de délation, de mère de boue et de zizanie, avec leur cortège de péchés capitaux qui y conduisent et les alimentent, comme l'orgueil, l'envie, la colère, la jalousie, l'avarice, etc. Et parlons d'une autre attitude, tout ce qui s'inspire en Église de ce qu'on appelle la soi-disant prudence, ou la soi-disant diplomatie, où l'on immole certaines valeurs, y compris la vérité, pour ne pas trop se compromettre, ne pas risquer de se tromper, ne pas avoir l'air de manquer à la charité, du moins dans sa déclaration publique, quitte à se reprendre en coulisses. Autre habitude et attitude, et on me fait signe que le temps est écoulé, nous la reprendrons au début de la phase de l'enregistrement de la face B.